Salut, je suis Gary Beneza et je vous emmène dans les coulisses du Web3. Finances décentralisées, NFT, métaverse et autres innovations dans la blockchain, je pars à la rencontre des principaux acteurs francophones du Web3 pour comprendre comment ils ont lancé leur projet et comment ils sont en train de construire leur succès au quotidien. Découvrez tout de suite un nouvel invité passionnant qui réinvente le monde d'aujourd'hui grâce au Web3. C'est parti! Salut Nicolas, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es cofondateur et CEO de Courtyard. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Courtyard?
Bonjour, merci de m'avoir. Nicolas Lejeune, j'ai 29 ans. Je suis belge, originaire belge et je vis à San Francisco. Je déménage à New York, mais je vis à San Francisco depuis 7 ans. Hein.
Ça marche. Et est-ce que tu peux un peu me raconter ton parcours avant Courtyard? Qu'est-ce qui t'a amené à créer Courtyard?
Ça fait depuis 7 ans que je travaille en tech. J'ai commencé ma carrière à Google, où je m'occupais en fait de sales pour Google Cloud. Je m'occupais tout le marché français au tout début de Google Cloud. Et puis j'ai bougé aux États-Unis et j'ai bougé à YouTube. Je m'occupais en fait des relations partnership avec les labels de musique pour YouTube.
Ça marche. Et du coup, tu as quitté YouTube pour Courtyard?
Oui, tout à fait. J'ai fait 2 ans à YouTube et je me suis rendu compte que c'était le moment de lancer ma société. J'ai mis ma démission et j'ai commencé à essayer de plusieurs types de projets. Et c'était au moment où le Web3 a explosé. Voilà.
Magnifique. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que fait Courtyard?
Oui, tout à fait. Donc, Courtyard, en fait, on lance en fait l'infrastructure pour digitaliser et on appelle ça connecter des objets de collection, des collectibles. On connecte les collectibles dans le monde du Web3 en créant des NFT qui sont backed par ces objets. On provide toute l'infrastructure pour sécuriser en fait ces objets dans les coffres-forts et de proposer en fait des NFT qui sont redeemables. Donc, quelqu'un qui possède l'NFT, peu importe où il se trouve dans le monde, peut à tout moment brûler le NFT et on leur envoie en fait l'objet partout dans le monde.
Top. On reviendra en détail sur le fonctionnement. Du coup, tu as créé Courtyard cette année ou c'est un petit peu avant?
Ça a commencé en fait septembre-octobre de l'année passée et ça a explosé depuis, donc la société a pas mal grandi. On est 13 maintenant et voilà.
Ok, et comment tu as eu l'idée du coup de créer Courtyard quand tu as quitté YouTube? Comment tu t'es dit tiens, je vais adresser ce problème en particulier?
Mais j'étais assez fort dans la crypto à la base, plus en tradant, j'ai fait un peu de DeFi. Et c'était en janvier-février, il y a eu vraiment l'explosion des NFT. Et j'ai vraiment vu ces NFT, non pas comme... les NFT, c'est un moyen de prouver en fait la propriété de manière digitale. Et je me suis dit en fait, mais si on arrivait à lier ça à des objets physiques, alors le plus obvious qui est, c'est tout ce qui est immobilier. Mais bon, il y a pas mal de problèmes au niveau légal en termes d'immobilier. Donc je me suis dit, mais si on arrivait à lier ça à une propriété physique, ça permet en fait une liquidité énorme sur le marché, dans le sens où on n'a pas besoin de bouger l'objet et on peut juste transférer cette propriété. Donc, ça permet d'investir dans des objets de collection sans spécialement les avoir chez soi. Parce qu'on voit que beaucoup de collectionneurs, moi, je suis un collectionneur de montres à la base et je connais pas mal de collectionneurs qui, en fait, ont leur collection tout simplement dans les coffres-forts. Et donc, c'est un peu venu de là l'idée, mais donc, on s'est dit, il faut vraiment arriver à avoir un tiers de confiance, en fait. Parce que pourquoi faire confiance à une société qui a une startup qui se lance et pourquoi donner ces objets de collection à cette société? Et donc, on s'est dit, quelle est la société la plus trustable, entre guillemets, dans ce domaine? Et c'était la Brinks. Généralement, les gens connaissent la Brinks quand ils voient les camions blindés. Ils se rappellent directement que c'est cette société-là. Et donc, on a contacté la Brinks. On a développé une relation avec eux, un partenariat exclusif. Et puis, ils sont devenus nos investisseurs. Et donc, l'ensemble des objets qu'on stocke, en fait, c'est dans les coffres-forts de la Brinks. Et on propose en fait toute cette infrastructure pour digitaliser n'importe qui possède des objets de collection. On peut les envoyer chez nous. On fait un modèle 3D de cet objet et on le met en tant que NFT qu'on appelle Connected Collectibles. Et n'importe qui possède un Connected Collectibles peut à tout moment le récupérer un peu partout. Où se trouve dans le monde.
Et c'est vrai que ouais, tu parlais des montres, je pense que c'est un très bon exemple parce que c'est vrai qu'en tant que collectionneur, si tu veux, tu as ta montre en coffre-fort et que tu veux justement vendre cette montre à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, j'imagine que sans justement Courtyard et ce nouveau système, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que tu dois rencontrer physiquement la personne qui est à l'autre bout du monde et entre guillemets sortir le coffre, du coffre ta montre et lui revendre derrière et ensuite gérer la partie transactionnelle. J'imagine quoi, c'est quelque chose d'assez assez complexe. Toi d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as fait par le passé ou justement c'est trop complexe à...
Oui, mais c'est ça en fait. Je me suis rendu compte que je voulais vendre une montre et j'étais aux États-Unis et le marché en fait assez limité. La seule option que j'avais, c'était vraiment d'aller chez un dealer local. Enfin, je me suis dit en fait, il n'y a pas moyen, même si j'avais un potentiel acheteur japonais qui voudrait acheter ma montre, ça n'a aucun sens de l'envoyer. Il y a tout ce qui est frais de douane, il y a tout ce qui est envoi, il y a la connaissance du marché, il y a la confiance. Il y a beaucoup d'objets faux dans ce domaine, il y a beaucoup de fakes. Et donc, c'est un problème clé qui permet d'être résolu par la blockchain, en fait.
Ça marche. On viendra après en détail sur le fonctionnement. J'ai pas mal de questions, ouais. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu arrives vraiment à gérer toute la chaîne de valeur de A à Z. Comment tu as rencontré tes associés, ton équipe, ta core team de Courtyard?
C'est assez intéressant. Donc, j'avais commencé avec un Français qui était très, très fort dans le domaine des NFT, ceux qui le connaissent potentiellement, il s'appelle Dr. Burry. Donc, c'était quelqu'un qui avait créé le premier bot à la base sur OpenSea pour bid sur, à l'époque, les Hashmask et puis les Apes et les CryptoPunk, etc. Et on avait commencé à travailler ensemble, on avait commencé à regarder un peu pour tout ce qui est levée de fonds. Et trois ou quatre jours avant que je démissionne de Google, il a décidé, il avait raison, ça marchait tellement bien son business de trade de NFT, qu'il a décidé de se concentrer plein temps là-dessus avec son autre associé. Et donc, j'étais un peu tout seul trois jours avant de quitter mon job. Et je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai été sur LinkedIn et j'ai regardé tous les gens sur LinkedIn dans mes connaissances, dans mes contacts qui avaient le titre d'ingénieur. Donc, n'importe quel type, j'ai commencé à les contacter. J'ai été dans le groupe interne à Google. Donc, il y a des groupes qui s'appellent Crypto Babble à Google. C'est des groupes en interne où les gens discutent de crypto non-stop. Et j'ai regardé des ingénieurs qui parlaient de hackathon, etc. Je les ai contactés sur LinkedIn. Il se trouve que mon cofondateur, je le connaissais depuis 4-5 ans. C'est un ingénieur chez Apple, un Français. Et je l'ai convaincu à ce moment-là. Il hésitait encore un peu. Il voulait vraiment lancer sa boîte dans quelque chose un peu dans le domaine. Il suivait très fort Dapper Labs. Et il était un peu sur on the fence, comme on dit. Et je l'ai mis en fait en contact avec un autre ingénieur de Google qui hésitait un petit peu. Je l'aurais juste dit, discuter sans moi, parler du projet sans moi. Ils se sont super bien entendus et donc ils sont revenus vers moi en disant on est chaud. Et donc c'est comme ça que ça s'est lancé en fait. Ouais. Donc,
Et du coup, vous avez démarré à trois cofondateurs.
On a démarré à deux cofondateurs parce que l'autre personne de Google au tout début c'était un peu plus difficile. Il a une famille avec trois enfants, etc. Mis nos argent après, une fois qu'on avait levé des fonds, etc. On est deux cofondateurs et lui nous a rejoint comme Head of Engineering.
Ok. Et du coup, quand vous avez vraiment commencé à bosser à plein temps sur le projet, vous avez directement levé des fonds ou vous avez commencé à construire la première version de Courtyard?
Alors, pas du tout. On a commencé sur le projet, on s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour recréer dans le monde du NFT? Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait vraiment attirer les consommateurs des NFT pour l'instant, et on s'est dit les cartes Pokémon, parce que la démographie est un peu, on a tous eu des cartes Pokémon à l'époque quand on était plus jeunes, on a tous cette histoire de ce classeur que probablement notre mère a jeté à un moment, et donc c'était sur l'histoire des cartes Pokémon qui ont augmenté de valeur assez fortement dans les dernières années, et on s'est dit on va faire un drop de NFT, un revealed, et on va acheter des cartes Pokémon. Et les gens vont pas savoir ce qu'ils vont avoir. On va fermer le paquet de manière digitale. Donc, on a réussi, en fait, de manière cryptographique à prouver que dans chaque paquet, il y avait de la carte Pokémon, dedans. Une fois qu'on ouvre le paquet, on pouvait prouver que c'était la même carte qu'il y avait dans ce NFT-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que un de mes amis, qui est un ingénieur chez Tesla, nous a prêté, en fait, 500 000 $ pour acheter des cartes Pokémon. Et c'était vraiment au tout début, on s'est renseigné à fond sur le marché des cartes Pokémon, on a acheté 500 000 cartes Pokémon, c'était environ 800 cartes. Et les cartes variaient entre 200 et 40 000 euros. Et on a fait un drop où c'était 500 $ le paquet. Et n'importe qui pouvait minter, on a minté en l'espace de 3 heures, donc c'était sur Polygon. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait.
C'est vraiment le MVP le plus atypique que j'ai jamais entendu, je crois. C'est excellent.
Expliquer à mes parents que j'ai quitté mon job chez Google pour acheter 500 000 € de cartes Pokémon et se lancer de manière digitale et les vendre de manière digitale, ils ont eu un peu de mal à suivre, mais finalement ils ils étaient supportifs finalement.
Ah, c'est excellent. Et du coup, ce drop donc de cartes Pokémon, vous l'avez fait sur quelle plateforme, sur OpenSea?
Donc on a fait notre propre contrat, donc on a fait un mine de NFT classique. Et ça commence à se revendre sur OpenSea. C'est ça l'avantage du blockchain également, parce que il n'y a pas besoin. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a besoin de faire ça sur le Web3, en fait? La vraie valeur du Web3, c'est qu'on peut utiliser ces NFT dans n'importe quelle plateforme. Donc, on peut les vendre sur OpenSea, on peut les vendre sur Luxrare, bientôt sur Instagram. Et on peut les vendre sur notre marketplace également. Mais en fait, tout ce qu'on fait, nous, tout simplement, c'est qu'on vérifie est-ce que tu es le propriétaire de ce NFT. On vérifie une transaction, on fait tout ce qui est KYC et tout ce qui est au niveau légal. Et on prouve juste ça. Mais après, ce NFT, tu peux faire n'importe quoi avec ce NFT. Tu peux le staker techniquement. Tu peux aller sur un autre protocole, emprunter de l'argent, le collatéraliser, le fractionnaliser si les gens veulent le faire.
Ouais. Donc, ouais. Et j'ai deux questions du coup par rapport à ce lancement de NFT de cartes Pokémon. La première question, c'est comment vous avez fait d'un point de vue communication pour être sûr qu'il y aurait vraiment de la demande et que ce soit pas un flop et que finalement vous ayez acheté 500 000 euros de cartes Pokémon, 500 000 dollars, et que finalement personne ne souhaite acheter vos NFT.
Ouais, donc avant d'avoir acheté les cartes, on a commencé quand même à lancer le projet, on a commencé à développer une communauté sur Twitter, sur Discord, on était dans la communauté, donc les gens commençaient à parler de nous parce que c'était assez innovant comme concept. Donc on a développé une communauté Discord qui était de, on va dire, 3-4 000 personnes. Et de là, on a commencé, on a acheté les cartes, on a fait le drop. Donc ça, il y a quand même quelques mois avant qu'on vende le premier NFT, on va dire.
Ouais. Mais, Non, vas-y, excuse-moi, j'étais...
Non, et je disais, donc on a... Une des choses qui était assez géniale, c'est que j'ai convaincu un de mes collègues de YouTube qui s'occupait en fait des relations avec les créateurs, les top créateurs et tout ce qui est label de musique en termes de support. Et c'est très fort lié en fait à community management. C'est un énorme sneakerhead et donc il a géré tout le Discord et ça a vraiment fait une communauté où les gens se sentaient, comment dire, une communauté accueillante, on va dire.
Ouais. Ok. Et... comment vous avez réussi à créer cette confiance pour que les gens aient tout simplement confiance d'acheter un NFT et qu'ils ne disent pas « Ah, je ne pourrais jamais, entre guillemets, claim mon NFT physique, enfin mes cartes Pokémon physiques ».
Oui, donc je pense que la confiance est venue principalement du partenariat avec Labelings. Donc, on a fait ce partenariat très tôt et on l'a annoncé en collaboration avec Labelings. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on soit rentré à Y Combinator qui a donné en fait un signe de confiance que ça ne devait pas être quelque chose de... Ça n'allait pas être un projet, un scam. On a donné des photos, on a montré les photos des cartes qu'on avait mises, qu'on avait achetées, etc. Et donc oui, on essaie vraiment de se baser sur la confiance parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment être une société de confiance tierce où on stocke les objets de valeur et on permet en fait cette rédemption. Et là maintenant, on a eu, je pense que dans les cartes qu'on a vendues, on est près de 10 pays différents qui ont déjà redeem des cartes.
Ok, et donc c'est excellent, c'est-à-dire que vous avez vraiment fait une loterie de cartes Pokémon, c'est-à-dire que quelqu'un qui a par exemple investi 500 dollars s'est retrouvé avec une carte Pokémon qui en valait par exemple 40 000.
Oui, et alors il y a toujours des cartes qui ne sont pas ouvertes.
Ok.
Il y a toujours des cartes qui sont fermées, donc on peut toujours acheter un paquet fermé pour l'instant et décider de le révéler si on veut. Ben oui, donc c'était un peu une, comment dire, c'est un peu comme quand on ouvre un paquet de cartes. Donc quand on achète un paquet de cartes de manière générale, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir un Dracaufeu ou il peut y avoir un Pikachu ou autre. Donc c'était un peu recréer cette expérience qu'on avait quand on était plus jeune d'ouvrir un paquet et de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans à ce niveau-là. Ce qui est un peu dans les NFT, c'est un peu la même chose. Quand il y avait à l'époque des drops, enfin il y a toujours des drops, mais quand il y a des drops de NFT, on ne savait pas si on allait avoir le gold et si on allait avoir ce type de NFT.
Et vous avez
recréé une expérience NFT liée à des objets physiques.
Ouais. Et sur les 500 000 dollars de cartes Pokémon, vous en avez vendu à peu près combien?
On a tout vendu en 3 heures.
Vous avez tout vendu, oui.
Tout à sold out directement. On a eu toute une expérience un peu... Il y a la The Moore's Law qui dit que whatever can go wrong will go wrong. On a eu, je pense qu'il y a, quand on voulait faire le lancement, il y a Polygon qui a crashé. Donc l'entièreté de Polygon, ouais. Je pense que c'était à l'époque où il y avait le jeu de farm sur Polygon qui avait explosé. Donc le network a crashé. Et donc, on n'a pas pu faire le mint. Donc, on a dû le pousser de quelques jours à ce niveau-là. Mais oui, tout s'est vendu. C'était d'ailleurs assez intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui n'étaient pas dans les NFT, qui ont décidé d'acheter leur premier NFT parce qu'ils voulaient comprendre, en fait, cette nouvelle technologie. mais ils n'arrivaient pas à passer le cap. Et là, sachant que c'était lié à un objet physique, ils se sont dit, mais je veux, pour la première fois, je veux acheter mon premier NFT. Et donc, c'était toute l'expérience de les éduquer sur comment aller sur Polygon, bridger son ETH, acheter du Matic, etc.
Et est-ce que vous avez pris une commission, que ce soit sur le marché primaire lors de l'émission du NFT ou après sur le marché secondaire? Comment vous l'êtes organisé d'un point de vue business model?
Alors, le but du lancement, c'était vraiment de se lancer à coup. Donc, on a vendu tout au prix d'achat. Et la façon dont nous, on monétise Courtyard, c'est vraiment en fait au niveau des royalties. Donc, on propose un stockage gratuit, on propose l'ensemble des services est gratuit, mais quand il y a une transaction, on propose des royalties qui sont beaucoup plus basses que des royalties, par exemple, sur eBay. Et également, si quelqu'un veut récupérer l'objet, on charge en fait le shipping cost pour récupérer l'objet, mais il peut le garder et le revendre en tant qu'un NFT.
Alors, on viendra après plus tard en détail sur le système des royalties, mais donc c'est quoi? C'est quelques pourcents en fait, j'imagine?
Là, c'est 6%.
6%. Et d'ailleurs, il y a 1% qui revient au créateur du NFT. Alors, peut-être pas dans le cas des cartes Pokémon, mais pour les prochaines collections, enfin les prochains objets physiques, c'est le cas.
Voilà. Donc, en fait, notre vision, c'est vraiment de se dire que on vit dans un monde de plus en plus digital et que les gens adorent investir dans des objets de collection, des investissements alternatifs, mais ils n'ont pas spécialement envie de les avoir chez eux. Par exemple, un sneakerhead qui a 50 paires de chaussures et qui habite à New York, on en connaît beaucoup. C'est un problème pour eux d'avoir leur petit appartement et toutes leurs chaussures qui soient restées là. Mais ils ne vont pas spécialement porter ces chaussures parce qu'une fois qu'ils portent ces chaussures, elles perdent leur valeur et c'est plus un investissement. Même s'ils adorent ce type de chaussures, ils ne veulent pas spécialement l'avoir chez eux. Et en plus de ça, il y a une sorte d'identité. Le fait de montrer sa collection, de partager sa collection avec des autres collectionneurs de manière digitale dans les Discord, etc., ben c'est quelque chose qu'on peut proposer maintenant avec les NFT. Et donc, c'est un peu le concept de dire qu'on essaie vraiment de proposer ce service à n'importe qui pour amener leur collection chez nous. Et une des choses qu'on veut proposer, c'est pour incentiviser les gens à mettre leur collection, on donne en fait 1% de royalties sur ce NFT dans les valeurs futures. Donc, imagine quelqu'un décide de mettre sa carte Pokémon chez nous, mais on va la digitaliser, on va lui donner sa carte Pokémon. S'il décide de récupérer son objet, ben, on lui renvoie chez lui gratuitement. S'il décide de le vendre, chaque transaction de ce NFT, on va rendre 1% de la valeur des transactions de ce NFT pour toutes les transactions futures de ce NFT à la personne pour... c'est une récompense entre guillemets pour amener son objet dans l'écosystème et amener son objet digitalisé.
Tout à l'heure, tu parlais du Y Combinator. Alors, pour rappel, hein, c'est un incubateur très connu hein, où sont passées beaucoup de grandes boîtes. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement ce passage?
Ouais, donc je pense que Y Combinator était assez. Surtout au tout début de la société, en fait, ça nous a vraiment permis de nous concentrer sur tout ce qui est primordial. Donc, quand on lance une startup, surtout dans ce domaine-là, et qu'il y a plein de gens qui nous contactent à tout moment, et là, ça nous a vraiment en fait permis de nous concentrer sur. Mais on a une deadline dans les 3 mois qui viennent, on va présenter devant tous ces investisseurs et vraiment se concentrer sur build le produit, discuter avec les utilisateurs et vraiment se focus à ce moment-là et pas de distraction en fait. Et donc les partenaires sont assez géniaux parce qu'ils ont vu des centaines et centaines de startups, ils savent les problèmes que les startups ont généralement ou les problèmes que les distractions qui sont inutiles ou les fausses bonnes idées. Et donc ils aident en fait à se concentrer et se dire mais en fait ça sert à rien de faire ça, il faut se concentrer et se lancer sur le produit là-dessus.
Et d'ailleurs ça a duré quoi? C'est 2-3 mois, c'est ça en général?
C'est 3 mois, oui.
Ok. Et vous avez fait une levée de fonds après, c'était avant ou pendant peut-être?
C'était pendant et avant, donc il y a eu... Le problème qu'on est en train de résoudre est quelque chose c'est une vraie use case du Web3. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire juste parce qu'il y a tout ce qui est infrastructure, il y a tout ce qui est stockage, il y a tout ce qui est envoi, KYC, frais de douane, etc. Et donc, ayant ce partnership avec la Brinks nous a vraiment permis de proposer une confiance qui était assez différente des concurrents. Et donc, on a eu énormément de demandes d'investisseurs qui nous ont contactés. Je pense que j'ai eu plus de 300 investisseurs qui m'ont contacté là-dessus. Donc, c'était assez stressant parce qu'on doit construire le produit, on doit continuer à avancer. Et donc, on a eu on a eu la chance d'avoir beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et donc, on a construit la levée de fonds en choisissant vraiment les investisseurs qui sont les plus utiles et avec qui on avait la meilleure entente. En fait.
Et vous avez levé combien ?
Donc, on a levé 7 millions avec des investisseurs comme... donc, on a NIA qui est notre lead. Donc, c'est un gros fonds aux États-Unis, un fonds de 18 milliards. On a des investisseurs comme OpenSea, Gary Vee, qui nous a permis vraiment de bien comprendre le marché des collectibles là-dessus, parce qu'il est très fort là-dedans. Et donc, oui, en Europe, on a Cherry Ventures, on a pas mal d'angels qui sont top dans ce domaine. Donc, par exemple, on a le président, le CEO de Collector Universe qui possède PSA, qui est la société qui grade les cartes, la société leading pour tout ce qui est grading de cartes. Et donc voilà, donc on a essayé vraiment de prendre un peu des investisseurs qui peuvent nous aider à se lancer à ce niveau-là et nous donner les bons conseils là-dessus.
Et pour venir sur le partenariat avec la Brinks, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine, voilà, moi ce que j'ai en tête, c'est que la Brinks est finalement une grande institution. Comment tu arrives à directement contacter les personnes stratégiques et mettre en place un partenariat aussi important en si peu de temps?
C'est très simple. Pick up the phone. Ouais. C'est pas moi qui fais le reach out initial, donc c'est la personne avec qui je travaillais à l'époque. Et c'est vraiment, il a contacté et il a demandé est-ce que je peux parler au directeur, qui était le directeur France. Puis le directeur France nous a introduit, c'est là que je suis venu, j'ai discuté avec le directeur commercial en Europe, qui nous a introduit au SVP. Il a vu que c'était en fait une société qui se lançait, qui a vraiment une utility pour eux, parce qu'on peut proposer en fait tout un marketplace au-dessus de tout ce qui est stocké avec la Brinks. Et on a développé ce partenariat assez rapidement, donc ça a pris quand même quelques mois. Et puis, ils ont décidé d'investir et de se lancer. Ils ont vu qu'on était assez bons techniquement. Donc, on venait de Big Tech, Google, etc. Et donc, on avait une approche assez méthodique en termes de développement. Et ça, ils ont beaucoup apprécié. Et donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Donc, toute la partie physique, donc la Brinks peut nous aider là-dessus parce qu'ils ont des centaines d'années d'expérience et des processus tout simplement. Par exemple, quand on reçoit des paquets, avoir une caméra qui va filmer quand on ouvre le paquet, si jamais il y a un souci, que la personne dit qu'elle a envoyé 5 objets et qu'il n'y en a que 3 dedans. Tout ce genre de processus, ils ont l'habitude de travailler là-dessus. Tout ce qui est le fait d'envoyer, on peut envoyer des camions blindés, par exemple, partout dans le monde, si la valeur des biens est assez importante. Et donc, tout ce genre de processus-là, ça nous a permis vraiment de scaler assez rapidement et d'avoir accès, en fait, à un marché mondial directement. Parce qu'on peut avoir, ils ont une présence dans 150 pays, ils ont une présence de Volt un peu partout. Et donc, si jamais on voit que la demande, par exemple, au Japon explose, ben, on peut tout simplement avoir un Volt au Japon en l'espace de 2 semaines.
Et je me posais d'ailleurs la question en termes d'authentification. Donc, finalement, c'est la Brinks hein, qui reçoit directement les objets physiques. Donc, c'est eux qui vont, comme tu disais, hein, faire ouvrir, entre guillemets, le paquet. Mais après, est-ce que c'est eux qui vont certifier que ce n'est pas justement une copie
Non, donc là, c'est pour ça qu'on travaille avec quelques types d'objets. Donc, on pourrait faire des montres, on ne fait pas encore de montres. Donc là, pour l'instant, on se concentre principalement sur les cartes, les comic books et les coins qui sont déjà dans une grading box, donc qui ont déjà été gradées. Et on a en fait des experts qui permettent, c'est pour ça qu'on commence qu'aux États-Unis pour l'instant, on a des experts qui viennent et qui vérifient en fait, qui vérifient tous les objets qui rentrent à ce niveau-là. Donc on est en train de développer tous des systèmes d'authentification pour en fait proposer qu'une fois que ça a été authentifié, ben, on est sûr que cet objet-là a été authentifié, on est sûr que ce qu'on achète, on peut à tout moment le récupérer et on est sûr que c'est quelque chose de vérifié.
Donc par exemple, moi j'ai un Dracofeu très rare, je vais l'envoyer à la Brinks, donc la Brinks va directement ouvrir mon colis, valider qu'il y a bien un Dracofeu dans le paquet. Et à ce moment-là, donc, il y a un expert externe qui va se déplacer à la Brinks en question pour justement authentifier, enfin certifier que ce Dracofeu est bien un Dracofeu authentique.
Oui, c'est ça. Donc on a des experts via les investisseurs, on a eu accès à des experts, etc. Et on a tout un processus où ils vont vérifier à chaque réception, ils vont vérifier en fait ces objets.
Et donc tu disais, donc, c'est pour l'instant, c'est pour des cartes Pokémon, des BD, c'est ça?
Donc, des cartes Pokémon, des BD, des cartes de sport, c'est un marché énorme aux États-Unis. Ouais. Donc, des Panini ou des cartes de foot, des cartes de baseball, etc. Et des pièces de monnaie, des vieilles pièces de monnaie qui ont une valeur qui peuvent monter dans les millions d'euros. Quoi.
Et j'imagine qu'après, ouais, l'idée, c'est de répliquer ça dans chaque pays, parce que chaque pays a peut-être ses spécificités en termes de certification.
Ouais.
Et c'est quoi d'ailleurs les objets que vous allez viser? Alors j'ai vu sur votre site par exemple qu'il y avait des sneakers, hein, des Nike. J'imagine donc qu'il y a ça dans la backlog, dans leur map, peut-être aussi des sacs à main, des tableaux. C'est quoi un peu les prochains gros objets?
Donc oui, on a lancé en fait une marque séparée qui s'appelle Sneaks.world, donc SNEAKS.world, qui est en fait une marque spécifique pour les sneakers. Alors les sneakers, on voulait, donc là c'était une marque qu'on a vraiment proposé en fait, des sneakers qu'on propose en vente, parce qu'on les source via des boîtes qui authentifient les sneakers directement, parce qu'il y a énormément de fake dans les sneakers, donc on veut pas accepter les sneakers directement. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver pour les sneakers de haut de gamme, donc tout ce qui est à 2 000 € ou plus. Mais on essaie d'être un peu plus, on n'a pas le droit à l'erreur, donc on essaie d'être vraiment précis sur tout ce qu'on propose. Et donc les sneakers, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a des modélisations en fait 3D, et les sneakers, la majorité des sneakers de collection, c'est plus ou moins le même modèle. Donc la seule chose qui change, c'est vraiment tout ce qui est texture, c'est tout ce qui est couleurs et autres. Et donc on peut assez rapidement créer des nouveaux modèles 3D, parce qu'on croit vraiment que en ayant un objet digital, avoir une photo, c'est pas très excitant d'avoir une photo en digital et la montrer. Donc on propose vraiment tout ce qui est modélisation 3D assez poussée, en plus d'avoir la photo. Donc le NFT a comme image principale donc un modèle 3D qui tourne, et en fait quand on clique sur la droite, on voit vraiment la photo du NFT photographiée à la Brinks, avec la petite carte et la metadata sur la photo.
Et du coup le modèle 3D, c'est le créateur de sneakers qui vous l'envoie, par exemple ça peut être Nike qui vous envoie le modèle, ou c'est vous qui le prenez, qui le cartographie entre guillemets?
C'est nous qui créons les modèles 3D. Okay. Alors, il y a eu toute une polémique avec Nike, justement, et StockX, il y a eu un procès à ce niveau-là. Et donc, en fait, on a investi énormément en avocat et en légal pour voir, en fait, comment on peut se protéger à ce niveau-là. Et il y a des protections au niveau du consommateur à partir du moment où on est très clair, et on est clair partout sur le site, qu'on n'est pas associé à la marque qui est représentée. Et donc, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, même sur le NFT, on a créé quelque chose qui est un peu comme le Parental Advisory. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, sur les CD.
Ouais.
Sur les CD, à l'époque, il y avait un truc noir, blanc, noir, où il était marqué Parental Advisory. Et c'est ce qu'on met sur les NFT maintenant, qui est que this is not associated with the depicted brand. Donc, c'est comme ça qu'on propose, parce qu'en fait, il y a une protection à partir du moment où on sait qu'il y a un objet pour chaque NFT et que c'est l'objet qui est représenté là. On peut, de manière légale, proposer ça en vente. C'est comme la mettre sur eBay, une photo sur eBay, en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à sneakers, donc tu disais que finalement, vous êtes les seuls à sourcer, entre guillemets, des baskets pour l'instant et à les mettre en vente sur la marketplace dont tu parlais. Et que pour l'instant, en tant que particulier, je peux pas vendre mes sneakers parce qu'il y a un trop grand risque de fraude, entre guillemets.
C'est ça. Donc, on veut être sûr d'avoir tout ce qui est un système d'authentification qui est assez poussé pour les sneakers avant de se lancer là-dedans. Alors, pour les sneakers, on a un projet qui va être annoncé d'ici quelques semaines avec un des plus gros projets, Blue Chip NFT. Où on fait une collaboration là-dessus pour lancer en fait ce marketplace de sneakers. Mais oui, donc pour l'instant, c'est pas possible d'envoyer des sneakers. On se focus principalement sur les cartes. Mais dans le futur, tout ce qui est art, tout ce qui est montre, l'idée c'est que n'importe qui pourrait envoyer ses objets de collection chez nous. On leur propose en fait ce modèle 3D et cette photo de NFT. Connected Collectible, comme on l'appelle.
Et je me posais la question, donc j'imagine, hein, pour finalement avoir mon NFT, donc j'ai juste à connecter mon wallet, hein, ça peut être un MetaMask, ça peut être autre chose. Comment ça se passe si je perds l'accès à mon MetaMask? Est-ce que je perds l'accès à mon NFT et donc je pourrais jamais récupérer, entre guillemets, mon actif physique? Ou justement, il y a quand même une petite partie centralisée où vous avez prévu ce genre de cas et avec des systèmes de KYC, c'est possible?
Donc oui, on a prévu ce genre de cas. On a beaucoup bossé sur tous ces use cases qui sont un peu uniques. Donc on propose en fait un KYC. Une fois qu'on a KYC le wallet, ça permet en fait de... on n'est pas obligé de KYC, on doit KYC pour le redeem. Donc à tout moment où quelqu'un veut décider de récupérer l'objet, il doit faire le KYC. Parce que c'est comme d'aller de crypto dans le monde réel. C'est la même chose que crypto à fiat. Mais une fois que le wallet est KYC, ça permet en fait à tout moment on peut prouver que c'est la personne qui possède ça. Et c'est un bon point dans le sens où ce qu'on est en train de faire, on est convaincu que ce qu'on est en train de faire va pouvoir amener beaucoup plus de gens sur le marché crypto, le marché des NFT, parce que ça a un sens d'avoir cet objet-là, c'est lié à un objet réel. Et donc, notre but à nous, c'est, mon but personnel, c'est d'utiliser la crypto et d'utiliser la blockchain, d'utiliser le Web3 sans spécialement focus sur la technologie. Donc, vraiment focus sur la valeur pour les gens. Et si quelqu'un qui ne connaît pas du tout la crypto, ben, l'idée, ce serait de se connecter avec son compte Google, payer avec une carte de crédit, recevoir un NFT et même pas se rendre compte qu'il a un NFT. S'il le veut, il peut l'exporter sur son MetaMask ou s'il peut se connecter directement via son MetaMask. Mais le but, c'est vraiment de proposer en fait un service de valeur sans spécialement se concentrer sur la technologie derrière. J'aime bien donner l'exemple de quand j'envoie un mail, je dis pas j'envoie un SMTP ou avec TCP. On se concentre moins sur le fait de la technologie derrière, mais plus sur la valeur pour les utilisateurs.
Ouais, je comprends. Ouais, vraiment la technologie au service de l'usage et pas l'inverse en fait.
Ouais, c'est ça. Et on trouve qu'il y a beaucoup de projets dans les NFT qui se focusent vraiment sur la technologie derrière. Et donc on essaie d'avoir en fait une expérience la plus smooth possible pour les utilisateurs. Et s'ils veulent payer en carte de crédit, ils paieront en carte de crédit.
Et niveau assurance, par exemple, comment ça se passe déjà? Je me demandais comment se passe le process quand je vais récupérer mon asset physique. J'imagine que je me connecte sur la plateforme, je me connecte avec mon wallet et je dis voilà, je veux récupérer l'asset physique correspondant à ce NFT.
Oui, c'est ça. Donc on assure tout via la BRIM. Donc ils ont des contrats avec les assureurs. Donc on assure au niveau de la valeur de l'objet sur le marché, donc les dernières ventes qu'il y a eu de ce type d'objet. Donc les cartes, c'est un marché qui est assez facile à explorer en termes de valeur de biens. Et donc, on assure ça à la Brinks à ce niveau-là. Et pour tout ce qui est l'envoi, la rédemption, on fait aussi également l'assurance à ce niveau-là.
Donc, ça veut dire que, par exemple, si pendant l'envoi, je ne sais pas, l'actif est perdu, il y a tout un mécanisme d'assurance qui est mis en place.
On remboursera la valeur du bien. Okay. On remboursera la personne à la valeur du bien sur laquelle elle a été assurée.
Ça marche. Et je me posais une question, c'est est-ce que finalement une marque peut elle-même créer ces NFT via API sur Courtyard ou c'est encore un peu tôt et c'est peut-être une feature qui arrivera plus tard?
Non, on discutait énormément. Donc on a quelqu'un qui est rentré, qu'on a engagé, qui vient également de Google, qui s'occupe en fait de tout ce qui est insights pour les marques de luxe. Et on a commencé à discuter avec une trentaine de marques parce qu'il y a vraiment ce besoin pour les marques de lancer des projets dans le Web3. Mais elle veut plus faire un NFT classique où c'est 10 000 profile pictures sans spécialement d'innovation. Et en fait, le lier à une expérience physique ou le lier à un objet physique peut vraiment proposer quelque chose de nouveau. Et donc, il y a un intérêt assez grand. C'est pour ça également qu'on a lancé en fait la société de sneakers Sneaks. C'était pour montrer en fait ce qu'on peut proposer aux marques. On a un checkout de NFT également. On a lié un back-end qui n'est pas, donc il n'y a pas de gasoir, donc on bloque l'asset quand on va minter le NFT. Et donc tous ces services, en fait, ça peut être proposé à n'importe quel type de marque. Et donc là, on est aussi en partenariat avec des agences parce qu'on est vraiment l'infrastructure sur laquelle les marques vont construire. On n'est pas spécialement une agence pour aider les marques, mais si une marque veut décider de stocker des objets et les proposer en vente en NFT, ben c'est tout à fait quelque chose qu'on peut proposer.
Ok, c'est intéressant parce que je pensais donc que Courtyard, finalement, c'était une marketplace où toutes les marques allaient pouvoir créer, enfin digitaliser, NFTiser hein, leur asset physique, mais finalement c'est aussi une techno où chaque marque va pouvoir créer en marque blanche la possibilité de créer sa propre infrastructure, en fait sa propre marketplace finalement.
C'est ça, exactement. Et donc le checkout qu'on a créé par exemple, c'est un peu comme un bouton PayPal et la marque pourrait très simplement l'intégrer dans son site internet. Et au lieu d'acheter l'objet, on peut le mint le NFT. Et donc, au lieu d'envoyer l'objet chez la personne, ben, elle va être envoyée chez la Brinks. L'objet va être envoyé chez la Brinks. Parce qu'il y a plusieurs approches pour faire des physically backed NFT. Mais nous, pour les connected collectibles, on pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une personne de confiance qui garde l'objet. Parce que si on donne l'objet physique et le NFT à la personne, ben, la chaîne peut se casser facilement. Parce que je peux vendre mon NFT à John et je peux vendre mon objet physique à Patrick et la chaîne est cassée en fait. Et donc nous on pense vraiment que le NFT en fait est une sorte de coupon pour récupérer l'objet.
Ok, excellent. Ouais, c'est vrai que j'ai vu pas mal passer de projets où il y avait un double NFT qui était créé, un pour l'asset physique et un pour finalement l'asset digital où voilà, on parle de digital twins, mais que finalement dès qu'il y a transaction, comme tu dis, la chaîne se casse, donc
Une fois qu'il oui, c'est, si la chaîne est cassée, c'est, ça n'a pas vraiment de valeur d'avoir le NFT. Et là, le NFT a une valeur. On sait que peu importe la personne qui achète ce NFT courtière peut à tout moment récupérer l'objet derrière.
Top. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment est structurée votre équipe aujourd'hui? Vous êtes tous basés aux US d'ailleurs?
Non, on est. C'est assez drôle parce qu'il y a énormément de francophones. Donc je suis belge à la base, mais il y a plein de Français. Donc on a quelqu'un, on est un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, mais on a des gens au Brésil, au Japon, à Amsterdam, à Paris, en Belgique. On est un peu partout. On est fully remote. Ouais.
Ok. Et est-ce que tu me donnais un peu des échecs auxquels tu as été confronté depuis le début de Courtyard?
Je pense que une des choses les plus compliquées a été tout ce qui est l'éducation. Donc, expliquer en fait aux gens cette nouvelle technologie. Ne pas utiliser des termes classiques comme les gens appellent ça généralement des phygitales, on déteste le mot, ou des NFT. Et la plupart des gens qui sont pas, qui connaissent pas spécialement le Web3, quand ils entendent NFT, ils roulent les yeux et ils tournent le dos. Et donc, on essaie vraiment de pousser, et c'est un challenge qu'on va continuer à avoir, on essaie vraiment de pousser cette éducation pour prouver en fait que ben, ça a une valeur clé. C'est pour ça qu'on appelle ça des connected collectibles. Et on essaie vraiment de pousser ce mot-là pour que ça devienne un peu... On sait qu'un connected collectible, ben, c'est un NFT qui devient un objet physique. Et ça, c'est un challenge continu pour continuer à éduquer les gens et continuer à expliquer ces technologies. Donc, non seulement c'est pas facile de créer toute l'infrastructure derrière, mais même quand l'infrastructure est créée, c'est toujours difficile de changer en fait le mode de fonctionnement parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau que la majorité des gens n'ont pas spécialement. Enfin, c'est pas facile à comprendre si on n'est pas familier avec la crypto.
On a parlé de pas mal de belles choses, hein, de votre vente de cartes Pokémon en moins de 3 heures, qui a été vraiment un gros succès, du passage par Y Combinator, de votre levée de 7 millions et du partenariat notamment avec la Brinks. Est-ce qu'il y a eu d'autres victoires depuis le début?
Oui, je pense que de manière générale, on a réussi à... Ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir créé une équipe qui est vraiment assez... on n'a pas une équipe énorme, mais chaque personne qu'on a rajoutée a vraiment amené une valeur clé pour proposer en fait tous ces blocs. Donc l'année prochaine, on va vraiment se mettre sur le marché et investir beaucoup plus en visibilité, en marketing et faire des choses un peu plus intéressantes. Mais en fait, il y avait eu besoin de créer toute cette infrastructure et de faire ça de manière propre, comme dirait mon cofondateur, pour être sûr qu'il y ait, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Et donc on a peut-être pris un peu plus de temps pour développer toute cette infrastructure, mais maintenant que cette infrastructure est développée, ça va permettre de faire des partenariats assez gigantesques avec plein de projets géniaux. Donc que ce soit des projets Web3 pour donner à leur communauté, ou que ce soit, je vais donner un exemple, une personne célèbre qui veut tokeniser un guitariste connu qui veut tokeniser sa guitare par exemple. Tout ça va être sur le blockchain et on va pouvoir prouver que ça a été que ça vient de ce guitariste connu, et donc on peut investir dans cette guitare, on peut potentiellement la fractionnaliser après. Donc ça, tout ce genre de choses-là va être assez intéressant, et ce sont des projets qui vont arriver dans le futur. Un autre point assez intéressant qu'on est en train de réfléchir, c'est tout ce qui est le système de repacking, en fait. Un peu de gamification, parce qu'une fois qu'on est dans le Web3, il faut quelque chose de fun, rajouter quelque chose de fun au fait de collectionner. Et pas seulement avoir l'objet, il faut pouvoir connecter avec les gens et discuter avec quelque chose de fun. Et donc, ça permet de proposer également potentiellement un repacking, par exemple. Donc, imagine si tu as une collection de 50 cartes ou 100 cartes, bah, tu peux décider de les repacker et on est clair que toutes ces cartes-là sont dans ces paquets, mais on ne sait pas quelle carte est dans ce paquet-là. Et donc, tu pourrais vendre tes paquets en fermé, sachant que les gens peuvent voir toutes les cartes qu'ils peuvent potentiellement avoir là-dessus. Donc, c'est le genre de concept qui n'était pas possible à faire sans le Web3. Donc, on est en train d'explorer pas mal de différents éléments pour proposer en fait plus de valeur pour les gens.
Hyper intéressant. Et d'ailleurs, sur le repacking, il n'y a pas un risque de fraude? Alors, j'imagine que ce sera géré peut-être par un agent externe, un tiers de confiance, et non pas par la personne qui va émettre elle-même, créer ses NFT, non?
Ce sera via Chainlink. Donc, on peut faire tout ça sur le blockchain, en fait. Donc, on peut prouver sur le blockchain que ça a été automatiquement randomisé là-dessus, et ça a été.
Okay.
Donc c'est ça l'avantage aussi du blockchain, c'est que tout est probable. Ouais. Et on peut utiliser ça. Donc je suis pas technique. Donc, mon CTO serait bien meilleur pour expliquer ça. Mais oui, donc on peut le prouver sur le blockchain et être très transparent à ce niveau-là.
Ok, excellent. Ah, c'est top. Donc, ouais, on parlait d'un peu de ces fonctionnalités-là. Au niveau des catégories d'assets, par exemple, pour venir sur les montres, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ? Donc, j'imagine, c'est surtout d'avoir peut-être un prestataire pour l'authentification. À horizon combien de temps vous pensez, par exemple, rendre l'achat, la NFTisation, entre guillemets, enfin la création, comme tu disais, de Connected Collectibles de montres sur Courtyard ?
Donc, je pense que les montres vont arriver. Là, on essaie vraiment de se concentrer sur une catégorie. Donc, on se rend compte que les communautés de collectionneurs sont assez différentes. Donc, quelqu'un qui va collectionner des montres et quelqu'un très différent qui va collectionner des tableaux, qui va collectionner des cartes. Et donc, on essaie vraiment de prouver le modèle sur une certaine catégorie et pas s'étendre trop. Et on va assez rapidement, une fois qu'on a prouvé le modèle, s'étendre sur différentes catégories. Puis, il y a aussi tout ce qui est modélisation 3D. On a fait des montres en modélisation 3D, mais on devrait probablement grandir notre équipe à ce niveau-là pour proposer des montres.
Et finalement, Courtyard, c'est un produit hein, qui touche des gens qui sont en famille avec le Web3, mais pas que, hein, j'ai l'impression que ça touche vraiment tout le monde. Dans cette logique d'adoption, est-ce que vous avez des wallets en particulier que vous allez, avec lesquels vous allez vous intégrer pour permettre justement d'utiliser le service sans forcément avoir un MetaMask qui est assez technique pour un non initié à la crypto?
C'est une très bonne question. On est en pleine discussion. On est en train d'évaluer pas mal de sociétés. On dirait que c'est un topic qui est assez chaud pour l'instant, entre guillemets, de se connecter avec un compte Google et créer des wallets. Donc, on essaie vraiment de voir quel partenaire a le plus de sens en termes de sécurité, si c'est un custodian wallet. Si on peut proposer un non-custodian wallet, il faut que les gens comprennent ce qu'ils peuvent avoir, parce que la plupart des gens n'ont pas l'expérience technique pour savoir exactement ce qu'ils font. J'ai encore eu une conversation avant-hier avec un collectionneur de cartes, un grand collectionneur de cartes, qui m'a expliqué que oui, je pense que j'ai un NFT, mais on m'a dit de mettre ma phrase dans un... Et j'ai mis ma phrase, mais maintenant je vois plus mon NFT. Donc il y a quand même une éducation quand même à faire qui est assez importante là-dessus. Et donc on veut être sûr de prendre les bons partenaires pour grandir dans le futur, parce que comme tu le disais, c'est quelque chose qui, on est convaincu, va avoir un énorme impact dans le futur. Et on est convaincu que la plupart des gens n'auront pas spécialement leur collection dans un coffre-fort à la banque, ils l'auront en NFT. Ils pourront le montrer, ils pourront le vendre plus facilement. Et on voit d'ailleurs, on a commencé à avoir des discussions avec des banques qui nous ont contactés. Parce que c'est quelque chose je m'en étais même pas rendu compte, mais ouais, il se trouve que la majorité des banques ont leurs branches qui sont en train de fermer. Parce que ça devient de plus en plus digital. Et qu'est-ce qu'il y a dans les branches ? Il y a des PO Box. Donc les petits coffres-forts où les gens vont mettre dans les banques. Et donc il y a moins en moins de PO Box dans ces banques-là. Et donc, ils sont en train d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de centraliser ça, et potentiellement, on pourrait proposer ce service de centralisation. Et ce sera une bonne combinaison par rapport au fait que ces banques essayent de proposer des wallets digitaux pour mettre également les crypto-monnaies sur ces wallets. Donc, potentiellement, on pourrait mettre son objet à la banque, recevoir le NFT sur son wallet de la banque dans un futur proche.
OK. Et je me demandais, est-ce que vous êtes les seuls à faire ce que vous faites aujourd'hui, ou vous avez des concurrents qui commencent à émerger?
Oui, alors on a deux ou trois concurrents. On est convaincu que notre gros avantage, c'est le fait d'avoir la Brinks, parce que la plupart de ces concurrents ont soit un système de stockage qui est assez opaque, donc on ne sait pas trop où ils stockent ces objets, ou il y a un concurrent qui a un système de stockage décentralisé. Donc ce qui est génial de manière idéaliste, mais c'est un peu plus compliqué de pas avoir quelqu'un de plus centralisé là-dessus, parce que le problème, c'est que si j'ai ma montre et je l'envoie à quelqu'un et je sais pas qui c'est, qui va garder la montre chez lui, on n'est pas sûr qu'il va la garder dans un coffre-fort, etc. Donc c'est un peu plus compliqué d'arriver à faire quelque chose de décentralisé à ce niveau-là. Et si j'ai ma montre, je préfère l'avoir chez moi que de la donner à quelqu'un.
Ouais, et est-ce que tu peux donner d'ailleurs le nom de ces deux acteurs?
Ouais, donc 4K.
D'accord.
4K.com, c'est eux qui font le système de stockage décentralisé. Et Americana qui est une société qui... Ils ont également levé 6,8 millions, je pense. Mais ils ont lancé un token et ils ont rien sorti depuis. Et donc ils ont pas de, ils ont annoncé leur marketplace en étant l'été. Maintenant, ça a été poussé à l'année passée, l'année prochaine. Mais donc voilà.
Ça marche. Je te propose de conclure, Nicolas. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur les prochaines actualités de Courtyard?
Super, ouais. D'ici, enfin, ça fait depuis une semaine qu'on peut aller sur OpenSea maintenant. Donc, si on tape Pokémon Card sur OpenSea ou Connected Collectibles, c'est une nouvelle catégorie sur OpenSea qui est une catégorie vérifiée de Connected Collectibles. Donc, on voit les cartes de baseball, on voit les cartes Pokémon, etc. Et donc, n'importe qui va pouvoir envoyer cet objet envoyer cet objet à la Brinks va automatiquement recevoir ce modèle 3D dans cette catégorie-là. Et on est aussi en train de discuter avec des grosses sociétés de social media également, potentiellement pour avoir la possibilité de le vendre, par exemple, sur ces sociétés de social media. Et donc, le futur, en fait, on va avoir l'année prochaine, on va avoir de plus en plus d'objets qui vont se mettre digitalisés et avoir de plus en plus de connected collectibles. Et ça va, l'idée de base, c'est de se dire que quand il y aura plein d'objets qui seront en connected collectibles, le marché va commencer à s'acheter et se vendre. Et les gens n'auront pas spécialement besoin de l'avoir chez eux. Ils pourront juste l'acheter et se dire, ben, je peux la garder ou je peux la revendre ou la récupérer quand je veux. Et donc, c'est un peu le gros focus. Donc, on est live aux États-Unis. On peut récupérer les objets, peu importe. Donc, si on se trouve en France, qu'on achète un connected collectible, on a fait plusieurs rédemptions en France. Pour envoyer les cartes en France, je pense que ce sera la prochaine Volt. S'il y a une grosse demande, ben, on va probablement l'ouvrir assez rapidement en France. Et donc voilà, donc il va y avoir énormément d'objets de grande valeur qui vont se mettre sur la plateforme. Et donc l'année prochaine va être assez intéressante et assez excitante.
Et juste pour clarifier ce point, tu disais donc que le service est disponible qu'aux États-Unis. C'est la partie, on va dire, création
Envoyer son objet pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Voilà. On peut l'envoyer, mais c'est un peu compliqué d'envoyer de France aux États-Unis. Mmh. Ouais. On pourrait très rapidement ouvrir un Volt en France. Mais par contre, si quelqu'un achète un Connected Collectibles, donc si quelqu'un achète une carte Pokémon en ligne et qu'il décide de la récupérer, bah, tout le monde peut dire je vais la récupérer et on l'envoie en France.
Ça marche.
Donc chaque Connected Collectible dans les metadata, il est marqué stocké chez Brinks aux États-Unis. Donc il va y avoir en fait où se trouve l'objet qu'on achète. Alors un autre point à dire qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, donc la régulation des NFT, vu que c'est lié à un objet physique, c'est tout nouveau. Pour l'instant, il n'y a pas de taxe sur les ventes de NFT. Donc, la taxe se fait en fait à la rédemption. Donc, si on décide de récupérer l'objet, il y a la TVA qui est incluse, etc., pour pouvoir envoyer et passer la douane, etc. Mais non, voilà.
Et d'ailleurs, au niveau des droits de douane, il n'y a pas de problème. C'est comme un objet classique, en fait.
C'est comme un objet classique. On donne la valeur à la douane via la Brinks et il n'y a généralement aucun souci là-dessus.
Ok, je précise juste qu'au moment de l'enregistrement, on est le 12 décembre par rapport au lancement sur OpenSea. Et une dernière question, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet aujourd'hui dans le Web3?
C'est assez intéressant. Donc, j'étais à Art Basel il y a 2 semaines et je vois qu'il y a de plus en plus de projets qui sont plus focus sur infrastructure, sur lancer des applications. Donc, il y a beaucoup moins de projets on va dire community-driven, de projets NFT classiques de communauté. Et il y a beaucoup plus de projets qui essaient vraiment de résoudre un problème du monde réel, essayer d'avoir une application du monde réel et utiliser en fait le Web3, le fait que ce soit décentralisé pour résoudre ces problèmes. Donc, mon gros point, ce serait de se focus sur la valeur aux utilisateurs plutôt que la technologie. Et vraiment essayer de se poser la question sur quelle est la valeur ajoutée de la décentralisation et comment on peut utiliser cette valeur pour améliorer un écosystème, que ce soit un social media décentralisé, par exemple. Il y a une valeur clé. Et donc, vraiment voir, en fait, se focus sur la valeur aux utilisateurs plutôt que sur la technologie derrière.
Super conseil. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment hyper intéressant et je souhaite une bonne continuation dans les mois à venir avec Courtyard.
Super, mais merci beaucoup.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le Web3 a désormais encore moins de secrets pour vous grâce à notre invité du jour. Bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec votre entourage, connaisseur ou non du Web3. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'invités pour ce podcast, vous pouvez me contacter en tapant Gary Peneza sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans les coulisses du Web3.